écoutez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous de l'économie mondiale et nous allons aujourd'hui réfléchir sur le cas français.
Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi.
Le quoi qu'il en coûte a-t-il coûté?
Quoi qu'il en coûte, aider les plus...
Quoi qu'il en coûte pour l'État, c'est vrai qu'il est exorbitant.
Quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie pendant...
La France peut-elle se passer d'un nouveau quoi qu'il en coûte?
Il y a un an, jour pour jour, apparaissait dans le langage politique cette expression devenue célèbre désormais, le quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte, l'expression lancée le 12 mars 2020 en pleine épidémie de Covid par Emmanuel Macron, qui s'engageait à sauver les entreprises et les salariés privés d'activité par le confinement. Financement du chômage partiel, fermeture des commerces, arrêt de nombreux secteurs au prix de centaines de milliards d'euros, 240 milliards selon le chiffre de Bercy. Un choix majeur, un choix social, mais aussi un choix budgétaire. À moyen et à long terme, la France prête à s'endetter, misant sur le retour de la croissance. D'autres crises, liées notamment à la guerre en Ukraine, sont passées par là. Une crise énergétique, le poids de l'inflation, et maintenant...
Le quoi qu'il en coûte, nous en sommes déjà sortis. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Nous avons protégé notre économie. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et j'entends pas beaucoup de voix d'ailleurs pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise.
La fin du quoi qu'il en coûte annoncé par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, c'est d'ailleurs une demande très claire. Des grandes institutions internationales comme le FMI, qui dans sa mission d'évaluation, connue sous le nom d'article 4, place Paris devant ses responsabilités. Il est justifié, écrit le FMI, de commencer la consolidation budgétaire en 2023. Voilà donc une sacrée problématique pour le gouvernement. Comment assainir les finances, revenir sous le seuil des 3% du déficit public fixé par Bruxelles, sans matraquer les ménages déjà plombés par les problèmes de pouvoir d'achat. Comment permettre aux entreprises, y compris à celles qui doivent rembourser leurs prêts, de redresser la barre? Est-ce que la France s'en sort mieux que ses voisins européens? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. À mes côtés, dans les studios de RFI, bonjour Stéphanie Villers.
Bonjour.
Vous êtes conseillère économique pour le cabinet PwC pour la France et pour le Maghreb. Et bonjour à Clémentine Gallès.
Bonjour.
Chef économiste à la Société Générale Banque Privée. Merci à vous deux. En fin d'émission, nous évoquerons un sujet important, la place des femmes dans l'industrie française. Comment former des ingénieurs, EURES. Comment établir une parité dans les filières technologiques et scientifiques. Tout part naturellement de l'école. Nous serons avec Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge, qui cherche à susciter des vocations chez les jeunes filles. J'en profite pour saluer les internautes au féminin qui nous ont rejoints sur notre page Facebook RFI Echo. Elles sont malheureusement trop peu nombreuses. Amandine Kouagou d'Atakora au Bénin, Tsanta Fani d'Antsirabe à Madagascar, Géraldine Lorpoka de Douala au Cameroun, Sephora Tia d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bienvenue à elles et bonne émission à toutes et à tous. Et d'abord, pour poser le débat, la parole, si j'ose dire, à l'accusation, le FMI, le Fonds monétaire international, qui a récemment mené une mission d'évaluation de la situation économique de la France. Son rapport vient donc d'être rendu. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Bruno.
Journaliste à RFI, la conclusion est très claire. Il faut serrer la vis budgétaire dès 2023.
Oui, la France doit assainir rapidement ses finances et fermer les vannes budgétaires. C'est le constat dressé par Jeffrey Franks, le chef de mission du FMI. Il faut dire que le gouvernement a produit beaucoup d'efforts ces derniers mois pour tenter de contenir l'inflation et de limiter les effets de la crise énergétique, que ce soit à destination des ménages comme des entreprises. On pense notamment au gel des prix de l'électricité et du gaz, au chèque d'aide énergétique ou encore à la remise sur le carburant. Ces dépenses exceptionnelles exceptionnelles ont permis de limiter la hausse des prix de 2 à 3 points, selon le Fonds monétaire. Mais ce quoi qu'il en coûte, le mantra économique d'Emmanuel Macron depuis la crise Covid pèse trop lourd dans les finances publiques, d'après les experts. Raison pour laquelle la France doit amorcer la consolidation budgétaire, avertit le rapport.
Et d'ailleurs, le Fonds monétaire international n'est pas la seule grande institution à défendre la fin de cette politique de soutien à l'économie française.
Non, à commencer par l'OCDE qui a appelé le gouvernement à mieux cibler ses aides pour moins dépenser. Et puis il y a aussi la Banque de France. Son gouverneur, François Villeroy de Galhau, alerte que poursuivre dans cette voie ne serait ni efficace ni finançable et reviendrait à faire payer la facture aux générations futures.
Revenons un instant au FMI, Grégory. Il va plus loin. Pour redresser ses finances publiques, la France doit, dit-il, prendre des mesures structurelles fortes.
Oui, en tête de liste de ces mesures, on retrouve une réforme des retraites. Le Fonds monétaire se prononce en faveur d'un décalage progressif de l'âge légal de départ à la retraite. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Et puis le FMI appelle aussi à la mise en place de la réforme de l'assurance chômage portée par le gouvernement ou encore à rationaliser les effectifs dans la fonction publique. Tout un tas de mesures censées permettre de renflouer les caisses de l'État et de réduire la dette, alors que l'institution de Washington prévoit un léger creusement du déficit en 2023.
Dernière question, Grégory. Comment le gouvernement français a-t-il réagi face à cette remise en question de sa stratégie budgétaire?
Eh bien, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme que le gouvernement a mis fin au « quoi qu'il en coûte ». Gabriel Attal, moins affirmatif, assume quant à lui cette politique. On ne veut pas sabrer nos services publics et augmenter les impôts des Français. Notre trajectoire est crédible, explique le ministre des Comptes publics. Selon les dernières estimations, la dette publique française a atteint 114,5% du PIB à la fin du premier trimestre 2022.
Merci Grégory. Stéphanie Villers, avertissement très clair du FMI. La France va dans le mur?
Elle ne va pas dans le mur, mais il est vrai que comparé à ses partenaires et en particulier à l'Allemagne, on voit que les comptes publics sont en situation beaucoup plus heurtée, hein, parce qu'on a effectivement une dette bien plus élevée, aux alentours de 112-114% du PIB, alors que l'Allemagne, qui a, elle, vécu aussi hein, une crise sanitaire, qui fait face aussi à une facture énergétique qui s'emballe, eh bien, a jusqu'à présent une dette sur PIB qui est aux alentours de 70%. Alors, ce qui fait que, si on regarde l'Allemagne, elle a des marges de manœuvre pour soutenir à la fois ses entreprises et ses ménages. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle a annoncé un plan de 200 milliards d'euros pour l'année prochaine visant à un soutien pour le pouvoir d'achat et pour les entreprises.
Ce qui a un peu agacé la France, d'ailleurs, en disant l'Allemagne fait cavalier seul. La France a fait un peu pareil, non?
Pour moi, oui. C'est-à-dire que ça a été fait, effectivement, très rapidement. Ce qui veut dire... Donc, je ne suis pas sûre que ce soit véritablement critiquable, parce que la France a mis en place un bouclier tarifaire dès le mois d'octobre 2021, et ce qui nous a permis, comme vous le disiez en préambule, de limiter l'inflation qui aurait dû être 3 points supérieure. En Allemagne, elle est de 3 points supérieure. Ouais. Donc en fait, c'est un décalage dans la dépense publique. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a moins de marge de manœuvre que l'Allemagne. Et pour finir sur le point sur l'Allemagne, il vaut mieux qu'elle évite la récession, parce que je vous rappelle, c'est quand même la première puissance de la zone euro, et si elle rentre en récession durablement, eh bien elle entraîne tous ses partenaires avec elle.
On va parler un peu plus tard des conséquences pour la croissance. Clémentine Gallès, est-ce que les observateurs de la finance, est-ce que les marchés financiers sont sensibles à ce type de message venant du Fonds monétaire international qui adresse des recommandations un peu sévères à la France?
Alors oui, bien sûr. Après, je pense que ces recommandations ne sont pas complètement nouvelles, puisque la trajectoire des finances publiques est déjà enclenchée sur cette tendance depuis quelque temps déjà en France. Là où les mesures qui ont été mises en place, en particulier sur la partie énergie, sont quand même intéressantes, c'est qu'elles ont permis d'amortir bien le choc énergie, notamment en termes de pouvoir d'achat des ménages, et donc sur la croissance. Et donc, comme on vient de le dire, les perspectives sont certainement...
Même si ces mesures ont été provisoires. Alors sur voilà, le carburant, par exemple, ça a duré quelques semaines et puis là, c'est remonté de 20 centimes d'euros.
Oui, mais en tout cas, à court terme, pour 2022 et même pour 2023, en termes d'amortissement, ces mesures auront un effet en termes de limiter l'impact sur la croissance économique et sur le pouvoir d'achat des ménages. Après, la conséquence, c'est sur les finances publiques, comme vous venez de l'évoquer.
Et ma question sur les marchés financiers, est-ce que ça peut jouer ce genre de message venant du FMI sur la capacité de la France à emprunter ou sur les taux auxquels elle peut emprunter?
Pour l'instant, ça ne se voit pas. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier en 2022 avec une remontée particulièrement significative des taux d'intérêt sur l'ensemble des marchés sur lesquels s'endettent les États. On a vu de nouveau des tensions sur certains pays comme l'Italie, qui a nécessité que la Banque Centrale Européenne reprenne le ton et annonce des mesures pour pouvoir y faire face si jamais de nouvelles tensions venaient à s'installer. Pour l'instant, on ne l'a pas vu sur les marchés auxquels se finance la France.
Les agences de notation n'ont pas encore dégradé les grands pays européens.
Non.
Ça pourrait venir ?
En tout cas, c'est vrai que le double choc Covid plus crise énergétique est un vrai risque. Par contre, ce qui est mieux aujourd'hui que ce qu'on avait à l'époque de la crise des dettes souveraines, à laquelle vous faites certainement référence, c'est que d'abord la BCE est plus préparée pour faire face à ça, et même l'Union européenne. Alors il y a un peu des discordances dans les annonces actuelles. Hein, on voit bien qu'il y a un manque d'uniformisation ou d'accord, mais on a quand même eu pendant le Covid des nouveaux plans, notamment le New Generation Europe, qui vise justement à renforcer la solidarité et qui est assez significatif en termes d'impact potentiel pour l'Italie ou pour l'Espagne, par exemple.
Stéphanie Villers, sur ce point-là.
Oui, on peut quand même regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein, rappelez-vous, Liz Truss qui présente un programme de soutien avec une baisse massive de l'impôt, eh bien, ça a été subitement contesté par les marchés financiers, à tel point que la livre sterling a décroché, que les taux d'intérêt se sont mis à grimper. Et ça a amené quoi ? La démission de Liz Truss et vraisemblablement avec un autre programme qui a été présenté, beaucoup plus, en tout cas beaucoup moins favorable à la baisse des impôts, parce que justement les marchés financiers ont sanctionné. Alors ce qui est intéressant pour moi dans l'alerte donnée par le FMI, c'est un peu ça, c'est ne prenez pas la voie du Royaume-Uni parce que vous risquez la sanction immédiate des marchés financiers, parce qu'il faut rappeler que la dette française n'est plus financée par la BCE, mais est financée par les investisseurs privés à travers les marchés financiers. Il ne faudrait pas les heurter un peu trop.
Ce qui nous amène à la question suivante, la marge de manœuvre du gouvernement français, la marge de manœuvre budgétaire, alors que le pouvoir d'achat est le sujet numéro un. Peut-être avec la Coupe du Monde de football, cette difficulté pour le pouvoir d'achat, est-ce que ça peut empêcher le gouvernement de prendre des mesures radicales?
Oui, alors effectivement, l'État n'est pas amené à prendre, absorber tous les chocs externes, parce que déjà, le gouvernement n'a pas les moyens compte tenu de la situation des comptes publics. Les entreprises font face effectivement à des réclamations de la part des salariés qui demandent des revalorisations salariales parce que le pouvoir d'achat est entaché par l'augmentation des prix de l'énergie. Donc à la fois, il faut que l'État cible vers les ménages les plus défavorisés pour essayer de les aider à passer cette crise et que tout le monde ne bénéficie pas de ces aides. Par contre, un blocage des prix de l'électricité correspondant à une hausse de 15%, on peut se poser la question. C'est-à-dire que ceux qui n'en ont pas besoin et qui ont un pouvoir d'achat relativement élevé, est-ce qu'ils ont besoin réellement de ce blocage des prix, en tout cas de cette limitation de la hausse. Ensuite, les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, elles doivent répondre au défi que les ménages les plus modestes doivent faire face avec cette hausse des prix d'énergie. Et c'est vraisemblablement des aides sous forme de primes, bonus, 13e mois, pour essayer de passer cette période transitoire qui est effectivement en train de s'étirer.
La question aussi centrale de la la potentielle augmentation des impôts. On entendait Grégory Genevrier dire tout à l'heure, dans la voix du ministre des Comptes publics, non, on ne veut pas augmenter les impôts. Le gouvernement est un peu gêné. Clémentine Gallès.
Tout à fait. Donc, juste pour revenir sur la partie pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est une problématique très importante pour les Français. Mais quand on compare la trajectoire du pouvoir d'achat des Français par rapport aux autres économies de la zone euro, et même par rapport à l'ensemble des économies développées aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on se démarque avec une trajectoire toujours positive et toujours favorable par rapport à un niveau juste avant le Covid. Alors qu'on voit des baisses assez marquées, ne serait-ce qu'en Allemagne, mais aussi en Espagne ou en Italie.
Aujourd'hui, seuls la Suisse et le Liechtenstein ont des taux d'inflation plus faibles qu'en France.
Tout à fait. Alors nous, on a une double bénéfice. C'est à la fois un taux d'inflation nettement plus faible que nos voisins, du fait des mesures que l'on a évoquées, et un marché du travail, enfin des salaires qui sont sur une dynamique, une masse salariale qui est sur une dynamique plutôt favorable, avec un marché du travail bien orienté et des salaires qui sont en partie indexé à l'inflation, donc c'est le cas du SMIC notamment, et qui fait que le pouvoir d'achat au global des ménages est en train de s'affaisser un peu, mais il résiste plutôt bien.
Sur la question de la fiscalité, est-ce que le gouvernement peut agir, peut augmenter les impôts? Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que ça n'est pas souhaitable du tout?
Alors, la France reste un pays dans lequel le taux de fiscalité, quels que soient les types de fiscalité que l'on regarde, est déjà très élevé. Donc, ce n'est pas simple pour le gouvernement, dans ce cas-là, de continuer d'augmenter avec des risques que cela peut poser sur la compétitivité, si c'est du côté des entreprises ou en termes d'évasion fiscale, si c'est du côté des ménages. Donc, c'est peut-être pas c'est pour ça que l'OCDE et le FMI préconisent pour assainir les finances publiques de jouer sur la partie dépenses et qu'il préconise d'aller sur le sujet soit des retraites, soit de l'assurance chômage afin de contenir les dépenses.
Puisque vous parlez des entreprises, Clémentine Gallès, ce quoi qu'il en coûte a permis de maintenir en vie une grande partie d'entre elles, même si les mêmes entreprises ne sont pas aujourd'hui tirées d'affaires. Exemple avec un boulanger-pâtissier à Beauchamp, dans le Val-d'Oise. C'est à une heure de Paris, au nord-ouest. Nicolas Feldman l'a rencontré.
Alors ici, nous sommes dans l'arrière-boutique de la boulangerie Maison Gauthier à Beauchamp.
Quand Frédéric Gauthier claque la porte de la restauration il y a 7 ans, c'est pour se reconvertir. Ses parents, ses grands-parents étaient boulangers. Il veut donc à son tour perpétuer la tradition, mais il était très loin à l'époque d'imaginer tout ce qu'il attendait.
Concernant le Covid, ça a été très compliqué à gérer, déjà les approvisionnements. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé plus ou moins sans clients. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu certains dispositifs de l'État. On a bénéficié du chômage partiel. Il y a eu aussi la mise en place du prêt garanti par l'État. Donc on a bénéficié d'une somme, je crois, 150 000 euros. Que nous devons rembourser à compter de janvier pour la plupart.
En plus du Covid, l'entreprise et ses 18 salariés traversent aujourd'hui une autre crise, celle de l'énergie. Pour comprendre, Frédéric Gauthier nous emmène dans l'arrière-boutique.
Alors là, on arrive dans les laboratoires. Alors si vous pouvez constater, il y a déjà un four électrique ici. Après, nous avons tous les pétrins, donc un batteur, un pétrin. Ensuite, la diviseuse, tout ça c'est pour le pain, le repose-pâton, la façonneuse. Tout ça c'est énergivore. En 2022, à la partie électrique, je vais payer 15 500 euros. À partir de 2023, on m'a annoncé 65 500 euros. Donc ça me fait 50 000 euros de plus sur l'année. Donc c'est énorme. Donc à se demander pourquoi se lever le matin.
Son compteur électrique est trop puissant. Le boulanger n'est donc pas concerné par le bouclier tarifaire. Mais il devrait être aidé début 2023 par un autre dispositif, l'amortisseur électricité. Il prévoit de limiter l'explosion des factures pour des entreprises comme la sienne. Ces aides de l'État sont donc plus que nécessaires, n'en déplaise au FMI.
Qui appelle-t-on les plus impactés par l'énergie? Je pense qu'on est arrivé à 400% d'augmentation sur le prix du kilowatt. Je pense que je suis impacté là. Moi, je peux fermer ma boulangerie demain. Et après, je suis à la rue, mais c'est trop tard. Par contre, le FMI, ils sont bien dans les bureaux, mais de temps en temps, il faudrait qu'ils aillent voir ce qui se passe réellement dans les boulangeries. Moi, je prêche pour ma paroisse, je suis boulanger, mais c'est le boucher, c'est le teinturier, c'est le fondeur, tous ces métiers énergivores.
D'autant qu'en plus de l'énergie, les prix des matières premières ont explosé. Le beurre et le sucre ont par exemple doublé en un an, ce qui fait dire à la Confédération nationale des boulangers que même avec ces aides de l'État, une hausse des prix de la baguette de 5 à 10 centimes est inévitable ces prochains mois.
Reportage de Nicolas Feldman, ce boulanger qui se demande pourquoi se lever le matin, Stéphanie Villers, l'angoisse des petits patrons écrasés par les factures énergétiques et qui se demande aussi comment ils vont pouvoir rembourser leurs prêts, parce qu'ils ont beaucoup emprunté.
Oui, oui, en fait, il y a 700 000 entreprises françaises qui ont bénéficié d'un PGE pendant la crise sanitaire. C'est à peu près 150 milliards d'euros qui ont été injectés auprès des entreprises. Et au moment, en fait, de rembourser, à partir du moment où on voit que le contexte conjoncturel est moins porteur, hein, quand même, la consommation des Français n'est pas au rendez-vous, les taux d'intérêt augmentent. Alors, il y a toujours la possibilité de renégocier sa dette, hein, c'est-à-dire de rembourser avec une autre dette. Mais pour autant, si les taux d'intérêt augmentent, ça fait des remboursements plus élevés. Donc, il y a des problématiques. Mais si on regarde les chiffres de la Banque de France, vraisemblablement, il semblerait que les taux de défaut ou en tout cas des problématiques de remboursement de PGE ne soient pas réellement significatifs. Il n'y a pas véritablement de hausse des besoins des entreprises de rééchelonner pour rembourser le PGE, ce qui est plutôt rassurant, ce qui ne veut pas dire que certaines entreprises font face, comme on vient de l'écouter, à de véritables défis.
Avant de poser la question sur les banques à Clémentine Gallès, est-ce qu'on peut s'attendre à des défaillances d'entreprises,
oui,
telles que l'évoquait notre
boulanger?
En fait,
c'est un retour à l'équilibre. Aujourd'hui, en fait, on a 30% de défaillances en moins par rapport à la période d'avant crise Covid, c'est-à-dire en 2019. Pourquoi ? Parce que les PGE, en fait, ont permis à certaines entreprises à maintenir la tête hors de l'eau, alors qu'elles étaient déjà en situation difficile auparavant. Donc, en fait, c'était une situation de survie artificielle. Donc, il y aura un retour à l'équilibre. Donc, il y aura des mauvais chiffres. Il y aura un taux de défaillance qui va reprendre. Mais ça va être un retour à la normale, en fait. Hein, si on a un taux de défaillance qui bondit de plus 30%, sachant qu'il avait baissé avant de moins 30%, il n'y a pas de réelle alerte.
Même chose pour le chômage. Le chômage pourrait de nouveau augmenter?
Alors là, on voit, les derniers chiffres sont encore rassurants. Hein, le taux de chômage est encore un peu baissé, puisqu'il est à 7,3%. Mais avec effectivement une inflation qui repart, des taux d'intérêt qui partent à la hausse, si on regarde un peu la théorie économique, évidemment, ce n'est pas bon signe. Généralement, ça indique un redémarrage du taux de chômage.
Clémentine Gallès, les banques également au centre du jeu, ce sont elles qui prêtent de l'argent et l'argent a de la peine à être remboursé en ce moment, un peu plus de peine.
Alors, pour l'instant, hein, comme il a été évoqué dans les statistiques, on ne voit pas trop de tensions et donc pour l'instant, c'est pas une problématique numéro un. Après, on s'attend tous à ce que ça soit normalisé, comme ça a été évoqué, après des années un peu inédites avec des taux de défaillance extrêmement bas, mais soutenus par ce quoi qu'il en coûte. Et donc, il y aura forcément une normalisation à attendre. Après, c'est vrai que les banques transmettent la hausse des taux d'intérêt qu'on évoquait tout à l'heure, qui est notamment initiée par la Banque Centrale Européenne pour faire face au contexte d'inflation. Donc, l'objectif de la Banque Centrale, c'est clairement de dire qu'il y a de l'inflation qui est en train de se diffuser à l'ensemble des prix des biens et des services, éventuellement au salaire, même si on l'observe que très modérément pour l'instant. Et donc, pour éviter que ça se diffuse et que ça se propage trop, on augmente les taux d'intérêt. Alors, c'est les taux d'intérêt de très court terme, mais du coup, les banques répercutent ces hausses des taux. Et finalement, la France, là aussi, se distingue avec des taux pour l'instant, des taux proposés par les banques, que ce soit pour les particuliers pour les entreprises, qui restent assez modérées en termes de progression. Donc, comme je disais tout à l'heure sur le pouvoir d'achat des ménages, du côté des entreprises, alors la hausse, elle est effective, hein, mais elle est encore contenue pour l'instant.
Est-ce qu'il y a déjà des effets dans le secteur de l'immobilier? On sait que les taux d'intérêt sont particulièrement surveillés dans ce secteur-là. Est-ce que les particuliers hésitent à acheter du fait de la hausse des taux d'intérêt, ou est-ce qu'ils se disent j'achète maintenant parce que ça se trouve, dans un an ou deux ans, ça sera encore plus compliqué.
Alors oui, on sent que le marché est en train de se chercher. Alors, c'est un peu compliqué d'observer des statistiques, puisque il semble que le tournant pourrait être en train de se matérialiser. On a une hausse des taux d'intérêt qui sont proposés aux particuliers. On a des prix de l'immobilier qui sont déjà très élevés. Et puis on a un pouvoir d'achat qui est en train d'être bousculé par l'inflation. Et donc la conjonction de ces trois facteurs fait que le pouvoir d'achat immobilier est nettement moins favorable et donc devrait peser sur les perspectives du marché immobilier. Après, il ne faut pas oublier que l'épargne globalement des ménages, notamment des plus aisés, hein, mais reste quand même abondante à la suite du Covid et du quoi qu'il en coûte. Et que dans ce contexte, avec pas mal d'incertitudes, notamment liées à l'inflation, il y a des ménages, notamment ceux qui disposent d'épargne, qui continuent d'être actifs sur le marché immobilier. Donc ça pourra prendre quelques temps, mais tous les indicateurs plaident pour qu'on ait un ralentissement assez clair du marché immobilier.
Les expertes de l'économie française, Clémentine Gallès et Stéphanie Villers, sont cette semaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Stéphanie Villers, la règle des 3% pour limiter le déficit public des États dans la zone euro, est-ce qu'il faut la faire évoluer, cette fameuse réforme du pacte de stabilité dont on nous parle depuis des années et des années, c'est encore revenu il y a quelques semaines, pas sûr que ça aboutisse.
Alors la Commission européenne a déposé son projet sur la redéfinition de ce pacte de stabilité et de croissance. C'était le 9 novembre où, en fait, elle n'a pas véritablement bougé sa ligne, la ligne de l'Europe, puisqu'elle dit, elle conserve les critères des 3% et de la dette à 60%, mais en fait, elle envisage que les trajectoires soient atteintes différemment d'un pays à l'autre. Il n'y aura pas les mêmes contraintes d'un pays à l'autre et il y aura des sanctions qui seront financières si un pays n'atteint pas ses objectifs qui seront peut-être moins élevés, mais pour le coup, l'objectif, c'est de réellement les réclamer. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt une menace que véritablement une sanction financière. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de Bruxelles, il n'y a pas véritablement de changement de mentalité en ce qui concerne les critères en matière de dépenses publiques.
Pour la France, l'objectif, c'est de revenir aux 3% en 2027.
Oui.
Est-ce que ça paraît réalisable ?
Il faut que...
Alors que là, on est à combien, là ?
5%,
oui. Un peu plus de 5.
Oui. Il faut que les réformes soient menées. Il n'y a pas de secret. Si les hausses d'impôts ne sont pas possibles, effectivement, il ne reste plus qu'à baisser la dépense publique. Et un des postes les plus importants, c'est les postes de dépenses de retraite, qui pèsent 14% du PIB. Donc, c'est véritablement vers là qu'il faut s'orienter si on veut baisser le poids de la dépense publique dans le PIB.
Avec un débat qui houleux et qui nous rapproche de la politique. Et on sait qu'effectivement, c'est pas simple en ce moment à l'Assemblée nationale. Clémentine Gallès, autre levier possible, autre espoir possible, le retour d'une croissance soutenue.
Oui.
Est-ce que c'est envisagé ? Est-ce que c'est envisageable ? Priorité à l'industrie, nous dit régulièrement le gouvernement.
Alors, tout à fait. Un des moyens aussi sur lequel le gouvernement devrait aller, c'est de viser au-delà de corriger la trajectoire de la dette publique. C'est vraiment d'agir sur la partie productivité, puisque la France a un PIB, donc une activité plutôt en ligne avec celle de ses voisins. Mais par contre, quand on regarde en PIB par tête, on voit bien qu'on a une productivité qui n'est pas très favorablement orientée.
Les Français sont moins productifs
que
les Allemands, par exemple, d'autres pays aussi.
Tout à fait, en termes de trajectoire. Et on voit bien que si on veut, améliorer les ratios d'endettement sur PIB, un des moyens d'action, c'est aussi d'agir sur le dénominateur. Et pour ça, d'investir sur des sujets de productivité. Alors ça peut être notamment un des axes que vous voulez évoquer à la fin de l'émission, hein, mais c'est un des axes d'enseignement, donc qui vont dans le sens de faire en sorte que l'enseignement soit peut-être davantage, encore davantage ciblé vers des secteurs de l'industrie.
L'apprentissage, par exemple, est favorisé.
Etc. La mobilité sur le marché du travail, ce type de réforme qui peut faire en sorte que la productivité à moyen terme soit renforcée et soit aussi un des vecteurs d'amélioration du ratio de dette publique.
Les nouvelles énergies, également les énergies vertes, c'est aussi le grand sujet du moment. Là, il y a un levier quand même majeur, puisque les investissements sont énormes.
Tout à fait. Toutes les mesures qu'on a évoquées tout à l'heure sur le bouclier tarifaire, je pense qu'elles sont favorables à court terme pour amortir le choc. Mais il ne faut pas oublier que le choc que l'on vit sur l'énergie, au niveau européen notamment, c'est un choc qui va s'installer dans la durée et qu'il faut arriver à avoir des réponses dans la durée. Et certainement, d'investir dans la transition énergétique et dans d'autres types d'énergie sera un moyen d'alléger la facture. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais et sera aussi un des canaux possibles pour permettre de contenir ou de renforcer la productivité.
Si on regarde quand même les derniers chiffres de la croissance qui ont été publiés par l'INSEE, on voit qu'il n'y a qu'une seule composante du PIB qui a véritablement stimulé la croissance, ou en tout cas empêché la France de rentrer en récession, c'est l'investissement des entreprises. Mmh. L'investissement des entreprises s'est maintenu sur les trois trimestres 2022, et même a été particulièrement élevé sur le troisième trimestre, parce que l'investissement des entreprises a atteint 2,3% de hausse. Et en fait, lorsqu'on décortique et on regarde mais où elles investissent, les entreprises et pourquoi elles investissent alors que les conditions deviennent de moins en moins favorables. Je parle des conditions conjoncturelles, mais aussi des taux d'intérêt. On voit que elles s'orientent vers l'acquisition de nouvelles compétences en ESG. Hein, donc là, en
ESG.
Environnement, gouvernance et sociétal. Donc, elles essayent de répondre à toutes les ambitions, notamment de la jeunesse, de la jeune génération, à aller vers la transition écologique, mais pas uniquement la parité, tous ces critères qui nous mobilisent et qui mobilisent en particulier la jeune génération. Donc là, il y a une réelle conscience qu'il faut aller vers le développement durable caricaturer. Et pourquoi ? Parce que aussi certaines entreprises ont vu que si elles ne correspondaient pas à certains critères, elles étaient sanctionnées par les marchés. Hein. La bourse sanctionne lorsque certaines entreprises ne répondent pas à certaines exigences. Et puis, les entreprises, les autres, vont vers l'acquisition de nouvelles technologies et en particulier le numérique. Donc, il y a vraiment deux pôles qui stimulent les entreprises, c'est les nouvelles technologies et l'acquisition de compétences en développement durable. Donc, c'est assez positif parce qu'en fait, ça annonce en fait la croissance de demain. C'est l'investissement, en fait, c'est une espèce d'impulsion avec des effets sur le long terme, alors que la consommation, c'est des effets immédiats. Hein, donc, ce sont des facteurs positifs. Il faut continuer de regarder où vont les entreprises, parce que bon, là, les conditions de financement vont se resserrer. Il n'empêche que la confiance, si on regarde, des entrepreneurs français reste quand même au beau fixe.
Stéphanie Villers, est-ce que la France est suffisamment en lien avec les autres grandes économies du monde ? On connaît les difficultés depuis quelques années avec les États-Unis. On a vu que Olaf Scholz... le chancelier allemand s'est rendu en Chine il y a quelques jours. La France, pour l'instant, est plutôt réticente, est plutôt critique par rapport à ça.
Mais il y a quand même une problématique aujourd'hui. On va plus vers une ambition de relocalisation. Hein. Oui. La mondialisation a un peu été déstabilisée par le Covid. Donc ça ne veut pas dire que tout a été remis en cause. Hein. Les grands groupes restent de toute manière, ont une ambition gourdoise. Mais le tissu industriel français se pose de plus en plus la question, faut-il ou pas relocaliser ?
Clémentine Gallès, le grand mot aussi de ces dernières semaines, c'est le mot récession. Est-ce que la France sera concernée au même titre que l'Allemagne, au même titre que les États-Unis aussi, où le mot est de plus en plus évoqué ?
Alors, l'histoire est différente entre les États-Unis et certaines économies européennes. Donc, aux États-Unis, il y a des craintes de récession qui sont liées à l'inflation et surtout à la hausse des taux qui a été encore plus importante et plus significative et qui commence à peser sur certains types d'agents économiques. Pour l'instant, il s'avère quand même que les dernières données, il y a du ressort dans l'économie, à la fois du côté des ménages et des entreprises américaines, qui fait qu'on pourrait avoir un ralentissement certes marqué, mais éviter une récession dans les mois à venir. Mais les risques sont bien là. En Europe, on a le risque qui est différent, puisqu'on a vraiment la crise énergétique qui affecte notamment certains pays, les plus industriels et les plus directement dépendants de l'énergie en provenance initialement de la Russie, qui sont à la fois l'Allemagne et l'Italie, où on a un vrai ralentissement qui s'est opéré dans les secteurs industriels. Et la question de est-ce que ça va rester contenu ou est-ce qu'on va aussi connaître de façon plus étendue une récession. Alors pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, il semble qu'on soit en capacité de l'éviter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui pèsent sur les perspectives d'activité.
Stéphanie Villers, pour terminer, un pronostic.
Moi, je me dis que de beaucoup dépendra la poursuite ou non de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle que quand même, ça a eu des conséquences économiques en zone euro qui ont été assez dramatiques pour nous. Parce que, rappelez-vous, on était plutôt en situation de reprise et il y avait cette dynamique qui s'était installée après cette crise sanitaire. Alors la question, c'est, on voit bien que, notamment lors du dernier sommet à Bali,
le G20
même la Chine a commencé à vouloir siffler la fin de la partie en se fendant d'un communiqué de presse pour Poutine en disant il faut rentrer à la table des négociations parce que ça a trop duré. Les États-Unis aussi vont dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cette voie possible qui est pour 2023 une négociation et une fin de cette guerre. Alors là, c'est vrai que c'est l'économiste qui veut voir le verre à moitié plein et qui a envie en fait de retrouver des conditions de croissance telles qu'on pouvait l'espérer avant cette guerre en Ukraine qui économiquement nous a coûté très cher en zone euro.
Eh bien, on vous réinvite dans quelques mois. Merci infiniment à vous deux, Clémentine Gallès, chef économiste à la Société Générale Banque Merci. Privée. Merci à Stéphanie Villers, conseillère économique du cabinet PwC pour la France et pour le Maghreb. Absolument. Bonne journée.
Merci.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Effectivement, la France veut protéger son industrie, veut la promouvoir. C'était même la semaine de l'industrie avec beaucoup d'initiatives sur le territoire. Mais ce secteur souffre d'un handicap et un handicap de taille. Il est bien trop masculin. Trop peu de femmes ingénieures, trop peu d'étudiantes dans les filières scientifiques et technologiques. Le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a décidé d'agir en remettant les mathématiques au programme obligatoire, au lycée, pour tous et pour toutes.
On a un paradoxe en France à propos des mathématiques. On est une grande nation de mathématiques, une nation d'excellence avec des prix prestigieux accumulés depuis longtemps, des médailles Fields, 13. On est au deuxième rang mondial avec des mathématiciens de très haut vol. Et puis d'un autre côté, un niveau moyen de la population qui est médiocre. Et c'est le cas également de la population scolaire. C'est ça qu'on veut corriger. La réforme du lycée, je l'ai toujours comprise comme une réforme perfectible, c'est-à-dire une réforme qui peut être aménagée ici et là. Et nous allons le faire. Nous commençons par les mathématiques, mais nous allons également retoucher un certain nombre de points tout en gardant l'architecture de cette réforme.
Le ministre français de l'Éducation, chez nos confrères de BFM TV, nous allons commenter ces annonces avec Amel Kefif. Bonjour.
Bonjour Monsieur Faure.
Vous êtes la directrice générale de l'association Elle Bouge. Elle Bouge au pluriel, association qui veut encourager les jeunes filles à accéder à ces métiers scientifiques jusque-là trop masculins, casser le plafond de verre. Que faudrait-il faire selon vous ?
Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et l'une des premières choses a été réalisée par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a remis dans le tronc commun, dès la première, les maths obligatoires, de manière à pouvoir réintroduire les filles et les garçons dans les filières scientifiques et post-bac dans les filières d'enseignement supérieur.
Le problème, c'est que les filles ne se destinaient pas à des professions scientifiques et donc abandonnaient les maths dès le début du lycée ?
C'est la raison pour laquelle l'association Elle Bouge existe, c'est que les filles abandonnent les maths et les sciences naturellement dès le lycée, voire même avant, si cela était possible, au collège. Donc on tente en fait, depuis 17 ans, depuis que l'association existe, de démontrer aux jeunes filles que les filières scientifiques, les filières industrielles notamment, toutes celles qui sont stéréotypées masculines, leur sont destinées et qu'elles peuvent sans problème, et même avec grand plaisir, les intégrer.
Et puis, il y a l'image des secteurs professionnels, l'image d'une usine où on voit avant tout des hommes avec un casque et une blouse, et moins de femmes. Il faut changer aussi cette image-là ?
Il faut complètement la dépoussiérer, complètement la déconstruire, l'éradiquer de tout le fantasme vieillissant qui continue d'exister et d'être cultivé, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les films, les dessins animés, les jouets, parce qu'on va même jusque-là. Hein, lorsqu'on regarde les jouets, je vous en parle parce qu'on arrive dans la période qui va donc avant Noël, où ces rayons roses et bleus, où on a des jouets scientifiques destinés aux garçons, des jouets scientifiques pour les filles, mais là c'est la fabrication de savon alors qu'on a la fabrication d'hélicoptères de l'autre côté dans la zone bleue, ça ne va pas du tout. Donc oui, on essaye de dépoussiérer cette image-là. On essaye aussi de dépoussiérer les icônes qui font l'industrie. Donc l'icône de l'industrie, c'est une usine avec le toit triangulaire et la fumée qui sort de la cheminée. Ça aussi, ce n'est plus ça. Et il n'y a pas qu'une industrie, il y a des industries qui s'adaptent complètement aux besoins de l'économie, évidemment, mais également à toute la recherche des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire le climat, des démarches éthiques, une politique RSE intense d'inclusion, de diversité, d'égalité salariale, de mixité des métiers. Tous nos partenaires, chez Elle Bouge, on en a 300, on a 25 délégations régionales, donc sur tout le territoire français, tout le monde souhaite dépoussiérer cette image, et les efforts réalisés notamment avec le gouvernement en font partie.
À vous entendre, on part presque de zéro. Il n'y a pas eu quand même des avancées ces dernières décennies ?
Bien sûr, non. Alors je suis désolée si mon propos est alarmiste. Il l'est parce que on a malheureusement eu une déconstruction. Oui, tous les efforts faits pour arriver à une parité en terminale scientifique jusqu'à la réforme du bac. Hein. En 2019, on est arrivé à une quasi-parité. Et là, c'est moins 67% de filles qui continuent les maths. Donc moins 67% en 3 ans. C'est moins 67% de filles qui vont passer un bac S, qui vont entrer dans les écoles d'ingé et ou dans les filières techniques également. Donc c'est toutes ces jeunes filles, donc la moitié de l'humanité, hein, comme on le dit, qui va se retrouver sur le marché, qui ne va pas se retrouver justement dans le marché de ces secteurs qui sont en hyper demande d'ingénieurs et de techniciennes et dans des filières absolument passionnantes, que ce soit l'hydrogène, l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, tout le secteur de la défense, de la mobilité. Et donc l'heure est grave parce que le ministre Pape Ndiaye l'a bien compris. On repart pas de zéro parce qu'il y a eu évidemment des avancées. Il y a 3 ans, on avait 50% de filles et de garçons dans ces filières. On ne repart pas de zéro parce que nous, chez Elle Bouge, nous avons 9000 marraines, donc ce sont 9000 femmes ingénieures et techniciennes qui participent à nos événements, donc plus de 500 événements par an. C'est quasiment 20 000 filles qui en profitent toute l'année. Qui profitent de ce partage d'expériences, ce partage de parcours, qui découvrent des secteurs d'activité, des filières académiques, des filières post-bac, ce qui va leur permettre en fait de supprimer la méconnaissance sur toutes ces filières et de pouvoir choisir ou non d'y aller.
Dernière question, Amel Kefif, vous travaillez aussi avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer aussi ce qu'on pourrait faire pour les jeunes filles en Afrique ?
Alors, pour les jeunes filles en Afrique, le problème ne se pose pas de la même manière. Les pays du Maghreb affichent les taux de femmes ingénieures en sortie d'école les plus forts du monde. Donc, on a des taux qui avoisinent, qui sont entre 40 et 60%. Donc, le problème du stéréotype dans ces pays, en tout cas dans le nord de l'Afrique, ne se pose pas. Pour les pays comme le Sénégal également, ou certains autres, en tout cas de la corne ouest africaine, le problème ne se pose pas, et ça on le voit avec le nombre d'écoles et de partenariats avec notamment les écoles françaises qui se créent sur place et où les taux d'effectifs féminins sont en hausse. Pour les autres pays, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas la connaissance des chiffres pour le taux de femmes ingénieures ou techniciennes et dans les écoles pour les autres pays. Mais en tout cas, le Conseil présidentiel pour l'Afrique agit en particulier pour l'entrepreneuriat au féminin, donc pour pousser les femmes de la diaspora africaine en France et les femmes africaines qui souhaiteraient aussi travailler avec les entrepreneurs en France à créer des ponts, à faciliter les financements, les microfinancements et à soutenir toutes ces futures femmes chefs d'entreprise dans les industries africaines ou franco-africaines.
Merci Amel Kefif.
Merci.
Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge. Et nous parlerons plus longuement encore dans l'une de nos prochaines émissions de cette lente féminisation de l'économie en France et ailleurs.
RFI, Radio France Internationale.
Régulièrement, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, un conseil d'écoute. Cette semaine, vous avez peut-être repéré le grand reportage sur les crypto-monnaies tourné par François Mazet, journaliste à RFI en République centrafricaine. Le Bitcoin y est monnaie officielle aux côtés du franc CFA depuis plusieurs mois. Et l'été dernier, le gouvernement a lancé le projet Sango, sa propre monnaie numérique, pour transformer l'économie de ce pays très pauvre. Révolution ou arnaque ? Quelques avis dans les rues de Bangui, la capitale.
Je suis favorable. Les devises que les RCA gagnent passent par le trésor français. Le trésor français gagne les 50% et les 50% sont envoyés en République centrafricaine. Mais avec la crypto-monnaie, ce que les RCA vend, elle reçoit ses recettes en totalité. Voilà l'avantage de la crypto-monnaie pour la République centrafricaine.
Cette monnaie va contourner les procédures normales des transferts d'argent. Avec la crypto-monnaie, on peut échanger directement, on peut transférer et recevoir directement sans aucune taxe.
Honnêtement, je ne suis pas suffisamment informée sur ce qui c'est que la crypto-monnaie. Je pense que c'est vraiment un danger pour la population. Par exemple, nos grands-parents qui sont dans les arrière-pays, nos frères, nos soeurs qui sont dans les arrière-pays ne connaissent même pas comment est-ce qu'on utilise la crypto-monnaie ou Sangocoin. Donc, il faut nécessairement maximiser et essayer d'améliorer même les qualités de sensibilisation.
Bon, moi, particulièrement, je suis contre ce crypto-monnaie en RCA. Puisque nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut pour une monnaie électronique, nous n'avons pas l'électricité comme il se doit. On est dépendant des étrangers vis-à-vis des connexions. Donc au lieu que le gouvernement investisse dans les crypto-monnaies, il faut que le gouvernement investisse beaucoup plus auprès de nos partenaires de banques pour améliorer la qualité de leurs services et cela pourra mieux nous aider.
Look at the cryptocurrency, man, it's such a blurrency, a new one every day. They got the pump and dump, they try to make you a chump, you better watch your back, I say.
Le pari crypto en Centrafrique, miracle ou mirage, un grand reportage de François Mazet et de Rolf Steve Domiale à retrouver sur RFI.fr. Et c'est d'ailleurs sur le continent africain, au Togo plus précisément, que nous vous retrouverons la semaine prochaine avec Guillaume Munier, le réalisateur d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous serons à Lomé au sommet de l'industrie financière africaine, les banquiers et décideurs du continent pour un grand invité de l'économie avec nos confrères de Jeune Afrique. D'ici là, restez connectés et surtout, portez-vous bien.
what you want to buy, ya. Oh, help me, won't you, I and I? 'Cause I don't know which one to buy. Good Lord, I got my feet on the ground, but man, my head is spinning around, and all the world is crypto.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.